Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Myriam Lepage-Lamazie et Yam Morin. Ils nous parlent du mouvement jeune et santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet « La méchanceté existe-t-elle vraiment? » Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres en début de deuxième demi. Elle nous propose « L'angoisse du dimanche soir ». C'est donc l'émission Folie douce. On commence en chanson avec « Les éléments ». La chanson s'intitule « Tu peux compter sur moi ». Bienvenue à Folie douce.
Soyez branchés, déboussolés, renfermés ou stressés, vous syntonisez actuellement Folie douce.
J'accueille maintenant mes invités, Myriam Lepage-Lamazie. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci de nous avoir reçus.
Merci. Également Yam Morin. Alors bonjour Yam.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
On va parler en fait du mouvement Jeune et santé mentale et aussi d'un manifeste qui a été publié il n'y a pas si longtemps. J'aimerais que Myriam, tu nous situes ce que c'est le mouvement Jeune et santé mentale. C'est une organisation qui existe quand même depuis un certain temps, mais pas si longtemps.
Exact. Le mouvement Jeune et santé mentale, c'est un mouvement citoyen jeunesse. Qui a émergé en 2016 après un forum qui s'appelait « Pour un regard différent en santé mentale » où les gens ont constaté, autant les jeunes que les intervenants qui travaillaient avec eux, qu'ils s'entendaient pas mal tous sur les enjeux majeurs qui se passaient en lien avec la santé mentale des jeunes et qu'ils étaient tannés de se faire consulter ou de se parler entre eux sans que rien bouge.
Okay.
Donc, à la plénière, à la fin de l'événement, les gens étaient comme « Là, ça fera de se dire les mêmes choses ». Puis, on
Agissons.
Veut que ça bouge.
Ouais.
Fait que la conclusion du forum, ça a été de construire, de mettre en place un comité de pilotage dont la mission, c'était de partir un mouvement. Fait que c'est parti comme ça, avec des gens qui ont pris le mandat, puis tranquillement, ils ont construit le nom, le slogan, tout ça, ça a été validé lors d'activités de convergence. Donc, les personnes qui étaient là au forum, qui voulaient, sont revenues, dire « oui, 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 c'est cool, non, c'est cool, on va le modifier un petit peu ». On est ressorti de là avec un nom, avec un slogan. Le slogan, c'est « c'est fou la vie, faut pas en faire une maladie ». Donc ça, c'est le slogan de base du mouvement. Et suite à ça, il y a eu une rencontre nationale dans laquelle le comité de coordination formé de jeunes a été élu. Donc au mouvement, on a un comité de coordination qui prend toutes les décisions finales. Dessus, il y a 7 jeunes, 3 alliés et 4 personnes qui représentent des regroupements nationaux.
Des alliés, c'est des gens qui sont pour la cause de la santé mentale?
Oui, c'est des militants qui ne rentrent pas nécessairement dans... les âges jeunes, ouais. Notamment une des personnes qui est sur nos sièges alliés en ce moment est une militante fondatrice du mouvement, mais a depuis dépassé cette année d'ailleurs 35 ans, donc elle ne peut plus occuper un siège jeune.
C'est la limite rester... jeune depuis des années, là, c'est ça, il faut arrêter quelque
c'est
part.
Jeunesse, c'est pour l'instant, nous on respecte les barèmes du gouvernement, donc jeunesse c'est jusqu'à 35 ans. Donc, elle a changé. Puis, on a une maman aussi qui a des jeunes filles qui ont l'âge des jeunes qui militent au mouvement puis qui voulait, elle, militer pour ses filles. Fait qu'elle est sur un siège allié aussi.
Ouais, c'est bien aussi, mais de pas des fois confiner juste que ce soit des jeunes qui pensent à des sujets. Il y a des gens qui peuvent appuyer puis qui peuvent. C'est intéressant de savoir ça.
Exact. Mais au cœur du mouvement, il reste que c'est les jeunes et leurs paroles qui sont notre moteur, qui sont aussi la base sur laquelle on fait nos actions. Fait qu'on a un événement de 2 ans qui est une rencontre nationale où est-ce qu'on va confirmer nos orientations puis nos grands plans d'action. Ensuite, c'est le comité de coordination. C'est des jeunes.
Ouais.
Ensuite, le comité de coordination, il est à parité. Donc, il y a 7 jeunes puis 7 personnes qui ne sont pas des jeunes. On a une équipe. Le rôle de l'équipe, c'est juste d'encadrer les processus puis les fonctionnements pour que les comités puis la rencontre nationale puissent mettre en place les projets. Fait que c'est tout le temps à parité avec des jeunes, partout. Puis quand on vient comme aujourd'hui, ben là, moi, je suis là au nom du mouvement, mais Yam est là avec moi aussi parce que on amène toujours un porte-parole jeune avec nous quand on fait des sorties, puisque c'est leur vécu puis leur parole à eux qu'on veut promouvoir.
Et justement, Yam, vous avez publié, le mouvement a publié un manifeste en avril 2023. Oui. 2023, exact. C'est ça? Ça fait quand même un certain temps, sur les jeunes et les médicaments. Donc, quand on parle de médicaments en santé mentale, spécialement, c'est ça?
Oui, effectivement, c'est plus dirigé vers la santé mentale, mais c'est surtout la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes qu'on vise avec ça. Mm-hmm. C'est plus par rapport, admettons, aux problèmes environnementaux ou à l'extérieur du jeune et non à lui-même qu'on est... On peut, on négocie les médicaments, on aimerait avoir plus de moyens alternatifs face à nos difficultés ou à nos problèmes actuels et non à long terme ou d'ordre psychologique réellement.
Oui, il y a longtemps, ça a été, on dénonçait souvent que on poussait beaucoup la médication dans beaucoup de situation là, de santé mentale, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui d'après vos observations?
Oui, effectivement, c'est encore beaucoup comme prôner le remède ou l'affaire efficace.
La
comme,
pilule, là,
c'est
on
ça,
passe
la pilule comme magique un peu, si je peux dire, mais c'est selon moi plus une sorte de béquille à un certain temps et non à long terme qu'il faudrait l'utiliser à la médication. Et amener des moyens alternatifs comme la zoothérapie, comme la musicalité ou la musique, l'art thérapie ou peu importe.
Ouais.
Donc, amener plus de moyens alternatifs, juste le plein air ou des sorties entre comme personnes qui s'apprécient égalitaires et non une forme d'autorité sur nous. Vraiment, avoir plus de moyens alternatifs.
Ouais, absolument.
Puis, tu sais, quand vous demandez si c'est encore comme ça, là, nous, il y a quand même une stat qui nous fait un peu réagir, là. C'est que selon la RAMQ, il y a eu une augmentation de 27 % des nouvelles prescriptions pour des antidépresseurs chez les jeunes de moins de 18 ans entre 2019 et 2021. C'est juste un chiffre, là, mais c'est presque 30 % d'augmentation en 2 ans. Puis tous les chiffres ressemblent à ça. Malheureusement, quand on va évaluer, il y a une recherche qui est sortie au printemps qui évaluait les niveaux de détresse chez les jeunes, mais ça aussi, ça augmente. Donc, on augmente la médication, mais ça ne semble pas du tout réduire la détresse.
Et je lisais même dans votre communiqué, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de choses, tu sais, comme les problèmes qui sont sociaux, là, tu sais, les problèmes qui sont vécus, que ce soit d'être victime de violence, d'intimidation, des choses comme ça, tu sais, d'avoir de l'anxiété, mais plus au niveau du contexte social, là. Puis on a peut-être tendance à prescrire, c'est ça, les médicaments, ce que vous dites, là?
Oui, effectivement, c'est souvent comme une problématique isolée et non un ensemble d'événements ou de contextes qui font que en ce moment-là, durant la période de vie du jeune, on a plus de difficultés à être accepté socialement ou juste comme bien fonctionner en groupe, en société. Donc, souvent, les psychiatres vont prescrire une médication et en antidépresseur ou en anti... peu importe le médicament, mais c'est souvent ça qui...
C'est ça qui vient rapidement.
C'est
là.
Ça. De base, pratiquement. Avant même que tu parles de qu'est-ce qui arrive avant, de pourquoi tu es arrivé dans le bureau du médecin.
Oui. Pourquoi? Je vais juste poser une question à Yann. En fait, pourquoi tu es impliqué dans ce mouvement-là? Trouves-tu que c'est quand même... Il y a un manque, il y a un manque d'informations? Ou qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer?
Moi, ce qui m'a amené à m'impliquer au mouvement, c'est vraiment vouloir changer... comme une partie du système ou le système, comment qui fonctionne, sa perception des choses pour les prochains jeunes. Moi, au début, je pensais pas que ça allait me toucher à moi personnellement. Je pensais juste toucher les prochaines générations. Ça m'a touché personnellement aussi. Avec le temps, je suis impliqué au mouvement depuis 2018 aussi,
ouais.
Décembre 2018. Donc, ça fait quand même une couple d'années que je suis impliqué et... je vois beaucoup d'améliorations dans mon cœur personnel, aussi dans mon entourage autour de moi.
OK. C'est important aussi, à force de s'informer, on est capable nous-mêmes de devenir une source d'information pour les autres. Hein?
Exact. Si je peux me permettre juste d'offrir un complément, tu sais, souvent la question que les gens nous posent, c'est est-ce que vous êtes contre la médication ou les diagnostics? Parce que c'est beaucoup de ça qu'on parle, puis c'est beaucoup ça que les gens nous questionnent, puis c'est beaucoup là-dessus qu'il y a des statistiques. Mais au mouvement, les jeunes vont le dire... comme librement, la majorité des gens au mouvement sont médicamentés et ont un diagnostic. Pour beaucoup d'entre eux, c'est des béquilles essentielles, puis ils le reconnaissent. Ce qu'on tend à reprocher, ce qui revient dans les discours des jeunes, c'est que la médication est donnée trop rapidement, comme seule solution, il n'y a pas de plan d'arrêt, et puis on médicalise des choses qui ne sont pas nécessairement des enjeux individuels ou des enjeux de santé mentale, sans tenir compte du contexte autant social que individuel de la personne. On ne va pas gratter du tout. Fait qu'on donne une médication à la personne, puis on la remet dans un contexte problématique.
Ouais, c'est ça. C'est un peu, mais ce qu'on voit aussi même en santé physique, tu sais, il semble manquer des services, sans manquer d'argent, sans manquer d'organisation. Donc c'est une grosse histoire, mais en même temps, il faut que quelqu'un s'en occupe. Si on s'en occupe jamais, c'est un peu ce que vous disiez tantôt. Ça suffit là, mais c'est ça, les gens en ont assez là.
Mais tu sais, on parlait du manifeste tantôt, mais si les gens vont l'écouter, vont voir que dans notre manifeste, on dit que la santé mentale, c'est la moitié des personnes en attente pour des services puis des consultations, mais c'est juste, il y a 7 fois plus de budget pour les enjeux de santé physique.
OK, oui, c'est ça.
Fait que le décalage est vraiment... le montant puis l'intérêt qu'on donne aux problèmes de santé physique... On gratte, on va plus loin, on offre plus de soins versus la santé mentale, alors que plus ça va, plus ça devient une grande part des enjeux sociaux,
ouais,
que nos jeunes vivent. Puis il faut penser aussi qu'il y a des services en dehors, là, des soins gouvernementaux qui sont super intéressants, des ressources alternatives. Il y a m'a nommé plusieurs choses tantôt, mais il y a aussi des organismes communautaires qui offrent de l'accueil, mais il y a pas vraiment de référencement. Pour le moment, il faut que les gens les trouvent, les jeunes, surtout, je peux pas parler au nom des adultes, mais ce que les jeunes nous disent, c'est qu'ils doivent faire leurs propres recherches. C'est nommé dans le manifeste, ça aussi, qu'ils sont mieux de se préparer puis de chercher, parce que personne va leur dire où aller.
Donc déjà, ça serait peut-être une bonne suggestion qui coûterait pas grand-chose de dire « ayons une meilleure information pour... » Tu sais, les organismes communautaires ont toujours été là, la première ligne a toujours été là, ont toujours été dans les milieux des gens, souvent, très accessibles. Fait que ça serait déjà une chose assez facile à mettre en place.
Hein. Effectivement, parce que les ressources communautaires, c'est là où que la majorité des jeunes qui ont une soi-disant santé mentale fragile ou qui ont eu une médication en lien avec des problèmes juste social ou environnemental et non individuel, on se retrouve majoritairement toutes dans les ressources communautaires, hébergement ou en itinérance aussi. Donc, c'est tout, selon moi, relié ensemble. Il faudrait arrêter de travailler comme en silo individuel, mais travailler tout le monde ensemble pour aller vers l'avant. C'est la solution que je vois qui pourrait vraiment aider et sauver quand même de l'argent au gouvernement, veut pas.
Ouais, il reste un peu plus qu'une minute. Comment vous voyez tous les deux l'avenir un peu de ce mouvement-là, puis le manifeste, est-ce que d'après vous, ça va faire un effet ou ça en a déjà fait un? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos idées là-dessus?
Moi, je crois que ça va continuer à aller vers l'avant, qu'on va continuer à travailler, on va éventuellement probablement refaire un autre manifeste, peut-être dans 1-2 ans environ, je ne sais pas trop, mais on va voir ça en équipe.
Mais le mouvement est là, il est dynamique, ouais, ouais. Beaucoup de jeunes intéressés.
C'est ça. Exact. Puis dans les mois à venir, là, on part en portrait, on va aller voir d'autres jeunes, aller collecter leurs paroles, s'assurer que ça représente encore qu'est-ce qu'on nomme au mouvement. Puis chaque fois qu'on parle à des gens, ils sont comme « Oh mon Dieu, oui ». Ça fait tellement de sens ce que vous dites. Fait que...
Donc, faut pas lâcher. Si on veut s'informer, il reste peu de temps. Si on veut s'informer, on veut lire, tu disais tantôt qu'on peut écouter aussi, on peut voir.
Oui, exactement. En fait, le manifeste, on a fait une vidéo, c'est les jeunes qui sont dedans. Il est disponible sur notre YouTube, mais vous pouvez aussi le trouver sur notre site internet au www.mouvementjeunesaupluriel.sm.com. Donc, tout se retrouve là, mais sinon, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux aussi. En cherchant Mouvement Jeune et Santé mentale, on sort en
Merci
général.
Beaucoup, donc Myriam Lepage-Lemazie, et puis merci Yann Morin, merci beaucoup pour votre visite. Bonne continuation, puis on s'en parlera éventuellement pour la suite. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines. Y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seule avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine. Mon amour tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne. Je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. Mes larmes inondent jusqu'au fauteuil. La nuit est longue, je me sens si seule. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens comme. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. Les couleurs, j'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur. Toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler, pourtant c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je nous vois flou. Je sens son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver, mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, je sais qu'on va guérir. Je te pardonne, je peux pas faire autrement. Je te pardonne, ça sera beau comme avant. Je te pardonne, accroche-toi à mes bras, abandonne tous les manèges à trois, je m'en tamponne. Du temps que ça prendra, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne.
Vous voulez savoir de quoi on a l'air et qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web au antenne.qc.ca, le antenne.qc.ca.
Nous voici maintenant au bloc Espresso. Alors, bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors, Pierre, aujourd'hui, ton sujet, la méchanceté, existe-t-elle vraiment?
Oui, une bonne question.
Effectivement, il y en a des gens méchants. On se demande si, effectivement, c'est en dedans d'eux ou si on développait ça.
Ouais, est-ce qu'ils sont nés comme ça? Ouais, est-ce qu'ils ont développé ça?
Est-ce qu'on est méchant? Mais il y a des gens plus méchants que d'autres, effectivement.
Ou même l'article pose la question... Est-ce que c'est une question de perception des autres aussi?
Ouais.
Oui, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui porte ce titre, « La méchanceté existe-t-elle vraiment? » C'est sur le site lauranechavel.com et c'est elle qui est l'auteur du texte. Et cette madame se présente comme étant une « life coach ». C'est très à la mode, on dirait, cette profession de « coach de vie »,« life coach ».
Mais surtout en France, on a l'impression qu'on veut toujours parler en anglais. Là. Ouais. Ça, c'est une autre histoire.
C'est ça. Mais je vais commencer par un bout que j'ai trouvé sur le site Wikipédia qui nous dit... D'abord, c'est une madame Francine Lucier qui est neuropsychologue au Centre d'évaluation neuropsychologique et d'orientation pédagogique. Donc, ça s'appelle le CENOP, C-E-N-O-P. Alors, cette madame Lucie nous dit « Il y a plusieurs théories à ce sujet. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait des enfants méchants en soi. Il n'est toutefois pas exclu que des enfants qui ont des troubles neurologiques aient des comportements perturbants. Personne ne naît doux ou cruel, selon cette dame, mais aucun être n'est non plus poli et raffiné à la naissance, disent les philosophes. Qui plus est, le fonctionnement psychique de l'enfant n'a rien à voir avec les règles de la vie en société. » Il y a aussi une période où ils ont davantage besoin de s'affirmer. Ils peuvent alors faire de grosses crises qui peuvent durer jusqu'à 45 minutes. Pour Socrate, philosophe de l'Antiquité, il nous avait dit « Nul n'est méchant volontairement. Cet intellectualisme moral suppose que la volonté choisit toujours ce que l'intelligence lui montre. » Comme le meilleur, Socrate, quant à lui, n'admet pas le libre arbitre qui consisterait à choisir ce qu'on sait être moins bon, car un tel choix serait sans raison et sans explication. Platon, quant à lui, disait « Il n'y a pas un seul sage à juger qu'il y ait un seul homme qui commette des fautes de son plein gré et qui, de son plein gré, réalise des actes laids et mauvais. » Tout au contraire, disait-il, les sages savent parfaitement que tous ceux qui font des choses laides et mauvaises, les font malgré eux.
Mm-hmm.
Alors, c'était Platon qui disait ça.
Donc, ça répond un peu à notre question, probablement, de selon eux, que les gens ne seraient pas nés comme ça, méchants. C'est plus que...
Ouais. Ouais. Et c'est sujet à débat, même si j'ai beaucoup de respect pour les gens que j'ai cités, évidemment.
Ouais.
Alors, je passe maintenant à l'article en tant que tel. La méchanceté existe-t-elle vraiment? Alors, Mme Chavel nous dit... Ben oui, elle existe. Elle nous dit « Je me doute bien qu'à la lecture de ce titre, vous avez immédiatement pensé à Hitler et à cette méchante petite fille qui vous pinçait sans raison dans la cour d'école primaire. Mais le terme n'est-il pas utilisé à tort et à travers? Croyez-le ou non, nous dit-elle, mais qualifier une personne ou une action de méchante est un jugement. Concrètement, cela signifie qu'il s'agit d'une opinion. Je sais, c'est très vexant et j'entends d'ici vos contestations à venir du type « Moi, j'ai un collègue qui est la méchanceté incarnée et c'est un fait objectif. Tout le monde au bureau est d'accord. Il n'empêche que ça reste votre avis et qu'il sera toujours possible de trouver des personnes qui vous soutiendront que Gustave, par exemple, est un véritable amour, ne serait-ce que sa maman.
Ouais.
Puisqu'il s'agit d'une opinion, cela signifie que nous jugeons sans cesse des faits qui sont à la base neutres. Deux facteurs les rendent méchants ou non. La personne qui les reçoit et décide de les qualifier ainsi et l'intention que la personne à l'origine de ces faits a mis derrière.
Mais c'est sûr que sa maman doit le trouver bien génial.
C'est souvent comme ça.
Ouais.
Alors, les deux ne coïncident pas toujours. On peut alors se demander si ressasser une histoire en répétant à qui veut l'entendre que machin chouette, par exemple, nous veut du mal et est une horrible personne n'est pas, dans le fond, une gigantesque perte de temps. Madame Chaval nous dit « J'ai pu observer tous les cas de figure suivants. Par exemple, Micheline fait à Geneviève un commentaire qu'elle estimait sympa, mais Geneviève le prend mal. Geneviève trouve que Micheline est méchante, alors que cette dernière ne voit pas le problème. Deuxième cas, Geneviève fait une réflexion volontairement méchante à Micheline qu'elle trouve hyper saoulante en ce moment. Micheline le vit très mal. Troisième possibilité, Micheline fait une remarque qu'elle estime méchante, volontairement ou non, à Geneviève. Cette dernière n'y perçoit aucune méchanceté.
Question de perception toujours.
Oui. Mais dès lors, on peut en conclure qu'aucune action ou parole n'est méchante. Arrêtez de me rebalancer Hitler. On parle ici de cas généraux et non pas de cas extrêmes. On peut donc mal prendre des paroles ou des actions pourtant émises avec la meilleure intention au monde. Comme on peut passer des heures à s'auto-flageller pour une parole qu'on a eue et qu'on estime maladroite pendant que la personne à qui elle était adressée vit bien sa vie en bouquinant dans son bain. Ça arrive, ça.
Oh, ça arrive.
Il y a des personnes moins sensibles que d'autres.
Ouais.
Pendant longtemps, j'ai cru que comprendre l'autre signifiait que je devais passer des heures à étudier toutes les raisons possibles pouvant justifier les paroles et actions d'autrui jusqu'à en trouver une qui me paraisse cohérente tout en me semblant être une excuse valable, etc. On tombe en plein dans les conclusions hâtives dont je vous parlais la semaine dernière. En fait, oh surprise, pour comprendre l'autre, il suffit de lui demander pourquoi il ou elle a dit ou fait ceci ou cela. Libre à cet individu d'être sincère ou de mentir. Mais si on part du principe que la majorité d'entre nous ne sommes ni devins ni mentalistes, il y a peu de chances qu'on sache déceler instinctivement l'état d'esprit de la personne en question.
On va poursuivre à l'espresso allongé le même sujet. La méchanceté existe-t-elle vraiment?
La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
Je m'entretiens maintenant avec Catherine Sassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvon.
Alors aujourd'hui, ta chronique, tu vas nous parler de la fameuse angoisse du dimanche soir qui est vécue par plusieurs personnes.
Oui, certainement par plusieurs personnes qui n'a jamais vécu cette angoisse, qui n'a jamais eu ce blues du dimanche soir.
Oui, mais tu vas nous l'expliquer aussi parce que oui. Tu sais, c'est sûr que les gens vont peut-être se dire « Oui, des fois peut-être le dimanche, j'ai... » Je sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe, puis souvent quand les gens travaillent le lendemain, évidemment, là, c'est souvent ça peut-être, mais en tout cas, tu vas souvent nous l'expliquer.
C'est ça, en fait, ça pourrait commencer simplement parce qu'on se dit « Oh, j'ai pas le moral aujourd'hui, oh, c'est dimanche, en fait. » Et rien que le dimanche qui commence déjà, on doit pas attendre le dimanche soir, on peut dire « J'ai pas trop le moral, et puis je pense déjà au boulot le lendemain. »
Qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est souvent dans un cas où la personne vit énormément de stress au boulot ou aime pas son boulot.
Ben, on va voir. Et en fait, pas toujours.
Pas toujours.
Puis étonnamment, pas toujours.
Puis il y a des gens qui vivent pour le week-end, tu sais. Puis ça, c'est dangereux c'est de vrai. Faire ça. Puis des fois, il y en a qui n'ont pas le choix. C'est comme leur bombe, là. C'est comme leur partie de vie qui est un petit peu plus à leur goût, peut-être, où ils ont le plus de contrôle. Mais pas nécessairement. Mais c'est un danger de vivre seulement pour le week-end, là.
Oui, ça c'est... on pourrait faire une chronique là-dessus, d'ailleurs.
Ouais.
Mais là, vraiment, c'est les gens donc, qui ont une baisse de morale le dimanche, qui se sentent déprimés à l'idée juste de reprendre le boulot. Heureusement, il y a des scientifiques qui nous aident là-dedans. Il y a une étude britannique qui est sortie. Et eux, ils identifient ça un petit peu. Ils nomment ça différemment en parlant de baisse d'énergie, sentiment de déprime chez les salariés, parce que l'étude porte sur les salariés. Mais eux, ils parlent aussi étrangement d'un regain le lundi matin, un regain d'énergie. Donc, dans leur étude, il s'est prouvé que les gens, en fait, quand le lundi matin commence, ben là, ils ont comme un petit boost d'énergie.
Ils n'ont pas le choix, là. Ils disent, ben, il faut que je plonge, il faut que j'aille. Mais il y avait une chanson à l'époque des Bengals qui chantait Manic Monday. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Mais
oui,
ça,
tout à fait. Je ne la chanterai pas, mais non, je mais vois ça, tout à fait
ça
ce que c'est.
Ça disait exactement ça, que la fille est en train de rêver un beau rêve, puis tout à coup, son réveil sonne à 6 heures, puis là, c'est la réalité qui arrive. Mais c'est les gens n'ont pas le
c'est
choix
ça.
De
rentrer. Bon, on espère qu'elle a passé une bonne fin de semaine quand même.
Oui, ben oui, au moins, ça.
J'espère pour
mais
elle.
C'est vrai que comme tu sais, dans la vie, les gens aimeraient ça des fois avoir plus de temps puis être capable de gérer plus leur horaire. Peut-être c'est plus le
oui,
cas maintenant.
Oui, et bien là, tu touches à quelque chose, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont identifié, ces scientifiques, que c'était pas parce qu'on n'aimait pas notre boulot qu'on pouvait avoir ce blues du dimanche soir ou même déjà de l'après-midi, d'accord?
Ouais.
C'est pas parce qu'on n'aime pas notre boulot, en fait. C'est pas non plus parce qu'on se sent mal au bureau ou que on n'aime vraiment pas notre week-end.
Ouais.
C'est pas ça. En fait, pour eux, d'ailleurs, chaque personne, peu importe l'endroit où ils travaillent, peu importe la hiérarchie, peu importe le secteur, chacun a déjà vécu ça. Donc pour eux, c'est unanime. Chacun a déjà au moins vécu ça une fois,
ouais,
de toute façon. Maintenant, ils ont quand même réussi à identifier des tâches que font les salariés qui peuvent déclencher ces sentiments de déprime le dimanche. Et quelles pourraient être ces tâches?
Oui, ouais, effectivement. On est curieux.
Mais en fait, c'est... La chose à pas faire, évidemment, c'est que des courriels qui seraient reçus la fin de semaine.
Ouais.
Alors, c'est sûr que pour ça, il faut deux personnes. Donc, il faut des personnes qui envoient ces courriels. Il faut aussi que le salarié ait l'idée d'aller ouvrir
sa boîte courriel de travail.
De boulot, pas juste la famille.
Ce qui n'est pas recommandé.
Non,
pas,
et voilà.
Ce qui est même interdit en France, si je ne m'abuse. Il y a même une loi qui dit qu'après certaines heures et avant telle heure, on ne doit pas ni envoyer, ni
en lire. En tout cas, à moins d'être travailleur autonome et de travailler sur des événements la fin de semaine, etc. Donc, ils identifient ça. On n'est pas encore dans des causes totalement reliées. Hein. Donc, comme facteur déclenchant, ils disent les courriels reçus pendant la fin de semaine, ça, c'est sûr que ça vous ébranle le week-end, la fin de semaine, pardon. Ouais.
Et à l'époque, à l'arrivée des BlackBerry dans le temps, là, les gens d'affaires avaient un BlackBerry, mais les gens disaient que c'était une laisse électronique, parce que c'était un peu ça. Là. Les gens déconnectaient jamais de leur travail. T'sais.
Et maintenant, c'est notre cellulaire, parce qu'on a toutes les boîtes courriels dessus, les applis.
Faut trouver la façon de les désactiver, mais là, ça devient de la manipulation. Là, c'est pas
pour
évident.
Chaque appli,
il
faut programmer, etc. Ça revient à chacun de le faire, mais je crois que c'est une question de bien-être de le faire.
Puis je comprends l'idée derrière par un gestionnaire qui dit je vais envoyer ça comme ça à première heure lundi, ça va être arrivé chez les gens, mais en même temps, la tentation est là de
lire.
Oui,
mais c'est pas bon pour le gestionnaire non plus.
Non plus, c'est ça. Alors qu'il faut trouver une façon d'éviter ça. Parce qu'on a besoin on a besoin de laisser notre cerveau finalement penser à autre chose que le travail.
T'as tout à fait raison. On va parler de ça, on va parler du côté gestionnaire, du côté salarié, évidemment, dans quelques minutes.
Ouais.
Ce qui déclenche aussi cette angoisse le dimanche, c'est éventuellement si on n'a pas achevé une tâche qu'on avait pendant la semaine et qu'on était censé l'avoir achevée. Mais pour Dieu, c'est quelle raison? Quelqu'un qui n'a pas répondu, ou on a eu un peu de paresse, ou on se dit « je vais y arriver » et comme on s'y est pris trop tard et qu'il y a eu un imprévu, on ne l'a pas fait.
Ouais.
Donc, c'est arrivé à tout le monde. Ça.
Et vendredi soir, on s'est dit « c'est vendredi soir, on verra ça un jour ».
C'est-à-dire que tout le monde a des obligations, on ne peut pas non plus rester jusqu'à minuit au bureau, ce n'est pas possible.
C'est ça, exactement.
Donc, c'est vrai que ça peut arriver de temps en temps et pourquoi pas, en effet, terminer le vendredi à ce moment-là.
Ouais.
Mais il faut partir à un moment donné et se dire « bon, à l'impossible, nul n'est tenu. » Donc, il faut laisser tomber à un moment donné, d'accord?
Et les gens doivent peut-être doivent l'expliquer. Puis là, ça ajoute au stress du lundi matin de dire comment ça se fait que telle tâche n'a pas été terminée. Fait que là, on part déjà avec un stress qui...
Donc, idéalement, faire tout ça, on verra ça avant de partir en week-end, fin de semaine.
Ouais, ouais.
Alors, il y a le troisième facteur déclenchant, c'est la pression qu'on a de notre gestionnaire ou d'autres personnes pour réaliser les tâches. OK, je te l'avais donné, il y a eu des obstacles, mais ça devait être terminé vendredi midi. Ça doit être terminé et puis c'est tout.
Sauf que
peu importe
pas des
les obstacles que tu as eus.
On n'est pas des robots.
Voilà.
C'est ça,
et les gestionnaires, ils comprennent ça aussi. Mais ils ont eux-mêmes des imprévus.
Quelqu'un qui dit ça, je trouve, est un peu déconnecté, honnêtement.
Oui, mais il y a des gens dans la performance et dans l'intolérance, etc.
Ouais.
Donc, il faut justement tenir son bout et dire, écoute, voilà, j'identifie telle et telle raison.
Pour quelle raison? C'est pas juste pas
quand je rentrerai, je recommencerai et je poursuivrai cette tâche et je la terminerai.
Ouais.
Ça, c'est les facteurs déclenchants. Maintenant, il y a aussi des facteurs qui peuvent être aggravants. Et ça dépend de notre attitude, la tienne, la mienne, chacun est responsable. C'est que chacun ne doit pas laisser trop de flou quand il rentre à la maison entre le boulot et la maison et ses loisirs. C'est un moment où il faut se déconnecter, sinon on ne vit plus. Et justement, on traîne son bureau et ses tâches partout. À un moment, et aussi pour le plaisir et le bonheur de notre entourage, il faut aussi laisser la place aux autres et savoir ne pas justement avoir peut-être une alarme pour notre boîte courriel du bureau sur notre cellulaire. En tout cas, qu'elle soit désactivée la fin de semaine et le soir, pendant la semaine. Donc, je crois qu'il faut faire un choix là de bien dessiner une frontière.
Quelqu'un me disait, on travaillait au centre-ville, je travaillais avec quelqu'un, puis lui, il demeurait sur la Rive-Sud, puis il disait, dès que je passe le pont Jacques-Cartier, pour moi, c'est comme, je suis plus au travail, je m'en vais sur la Rive-Sud. Donc, tu sais, il réussissait, lui, sa frontière,
c'était
le pont.
Il est en mode vacances au pont.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est, au moins, il trouvait ce truc-là, c'était bien, t'sais.
Ben, écoute, c'est très, très bien.
Vous trouvez des trucs.
Ça peut être quand on rentre dans le métro. C'est faites comme vous voulez, faut dessiner une frontière.
Mais un des trucs, c'est pour les gens, disons, qui. Moi, je trouve un des trucs, c'est de changer de vêtements aussi. Quand tu arrives à la maison, tu sais, selon, ça dépend. C'est sûr, si quelqu'un était bien accompli, ça se peut qu'il change. Mais mettons, on a des vêtements réguliers. Mais juste pour faire une transition vers. Tu dis, le bureau, c'était ça. Puis la maison, c'est autre chose. Puis ça aide à faire une frontière.
Voilà. Et d'ailleurs, souvent, on a besoin d'une période de décompression. Et on a besoin surtout que personne vienne dans notre bulle à ce moment-là, en général. Moi, je profite bien de la marche pour ça ou d'un transport en commun éventuel ou d'une voiture s'il faut, ça permet vraiment de décompresser.
Exactement.
Mais là n'est pas le sujet. Donc, il y a cette fameuse frontière à dessiner et aussi peut-être ce qu'on traîne de la pandémie. C'est qu'avec la pandémie, on était tous à la maison et on a un petit peu invité le bureau jusque dans notre frigidaire, jusque dans notre salon, jusque même des fois la salle de bain ou les enfants qui passaient derrière ou Dieu sait quoi.
Les animaux domestiques.
Les animaux domestiques.
Notre intimité, notre intimité.
Exactement, l'intimité.
On a essayé d'entrer le bureau dans l'intimité.
Et à un moment donné, de l'autre côté, les gestionnaires se sont aussi habitués à ça. Il faut tirer une ligne là. Et ça ne fait pas de vous un mauvais employé, au contraire, ça fait de vous quelqu'un qui sait mettre des limites et qui sera un meilleur employé parce qu'il sera productif et reposé quand il va retourner au bureau et il sera efficace. Donc, c'est important que chacun prenne ça en charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fameux blues? Figurez-vous que les gestionnaires ont leur part. Donc, les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils ne doivent pas envoyer, eux, de courriel à leurs salariés, évidemment. Ils doivent idéalement, le vendredi midi ou plus tard, faire le point avec leurs équipes sur les tâches accomplies la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, ne fût-ce que par courriel.
Pour que ça soit déjà connu.
Pas faire une réunion chaque fois.
Pour que ça soit déjà connu, qu'il n'y ait pas de malentendu, comme tu parlais tantôt, de quelque chose qui n'a pas été terminé.
Ou qu'on assume que c'est fait.
Ouais.
Alors aussi, organiser des interactions le lundi matin avec les équipes, une petite réunion du matin bien sympathique, pour dire voilà ce qui nous attend cette semaine, etc. Ouais. Mais quelque chose de relax où tout le monde se sent à l'aise pour bien terminer le week-end.
D'ailleurs, j'avais lu les meilleures réunions. Là, c'est des réunions que tu fais debout. Ça a l'air drôle, là, mais si tu fais ça debout, tu vas moins perdre ton temps dans une réunion, puis ça va être plus dynamique, puis on peut arriver tout de suite au point plutôt que de s'asseoir.
Moi, je prépare debout. Je propose debout autour de la table de billard.
Puis là, on n'est pas debout en train de faire l'entrevue, mais on pourrait être debout dans le studio.
C'est vrai, ça va changer quelque chose.
Oui, ça change quelque chose, c'est sûr.
Alors, les salariés, on ne les oublie pas, mon Dieu, les salariés. J'ai plein de conseils pour les salariés.
Ouais.
Évidemment, faire chaque fois une liste pour la semaine, pour cocher tout ce que vous aviez à faire.
Ouais.
Je sais que maintenant, on a tout ça qui est automatisé, qui est électronique. Mais des fois, c'est bien de garder le petit post-it à côté de soi pour être sûr qu'on a été coché tout ce qu'il fallait.
Ça encourage.
Et puis,
aussi,
exactement, on se dit, oh, youpi, c'est passé,
effectivement.
Et aussi, pendant la fin de semaine, attention, par exemple, de faire, vous pouvez faire la grosse fête le samedi, etc. Mais soyez bien conscient de vos possibilités. Est-ce que vous récupérez bien le lendemain ou est-ce que vous avez tendance à vouloir dormir le lendemain, avoir le cafard, le blues, etc.
On fait la gourba trop tard.
Pareil pour l'alcool.
Oui, incluant dimanche, c'est ça. C'est comme le lendemain qu'on retourne au travail, en général.
Voilà, avec modération et dépendant, évidemment, des possibilités de chacun, d'accord? On essaie de se détendre le dimanche, on fait de la relaxation. Si on sent qu'on est sujet au blues, là, on va faire de la relaxation, de la méditation. On va aussi s'occuper la tête, aussi bien aller, par exemple, prévoir une activité avec des amis, pourquoi pas, un barbecue, une visite de musée. On veut vraiment se déconnecter du travail, se déconnecter la tête.
Ça fait du bien à la tête.
Voilà. Et si vous n'avez rien de prévu, moi, j'avais déjà trouvé ça comme truc. C'est une amie qui m'avait dit ça. Écoute, change tes meubles de position.
Ouais.
Et puis, ça vous occupe pour l'après-midi du dimanche. Et c'est bon, l'hiver, ça marche. Donc, ça, c'est ce que je voulais te dire. Donc, en conclusion, ce qu'on voit, c'est que normalement, c'est un sentiment passager. Si ça revient plusieurs semaines de suite et que ça prend de l'ampleur, là, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être autre chose et que derrière la déprime, il y a peut-être, je dis bien dépression.
Ouais.
Il faut aller consulter. Si ça vous donne de grosses angoisses, on a mis sur le site les endroits où vous pouvez aller consulter,
ouais,
et également les références, dont un ouvrage là-dessus.
Ouais. Voilà, merci, Yvan. Merci, Catherine. Donc, la fameuse angoisse du dimanche soir. Merci pour cette chronique et on y reviendra peut-être. Merci.
Merci, Yvan.
Au revoir.
Je n'irai pas jusqu'à dire que mademoiselle a le bec fin. Je me contente de rire lorsqu'elle se fait servir et qu'elle check sa tranchée de pain. Pas trop piqué sur les fruits, ni sur la cuisson des omelettes. En autant que son beurre soit un vrai beurre, jamais trop dur ni trop frais. Et si tu oses mettre autre chose sur ses toasts dans une assiette.
C'est présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale.
De retour au micro avec la chronique de Pierre, l'Espresso allongé. Alors Pierre, la suite de ton sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission, la méchanceté existe-t-elle vraiment?
Oui, et c'est d'après un article qui porte ce titre, et j'ai trouvé ça sur le site Internet, lauranechavel.com. Alors, comme le nom du site l'indique, donc c'est une écrit par Madame Laurane Chavel, qui est life coach. Donc, coach de vie, on dit en français.
Oui, en bon québécois, c'est ça, mais en France, ça a l'air que c'est... Oui. Ils aiment ça, les expressions oui. Américaines.
Oui. Ouais. Alors, j'étais en train de... J'avais commencé la lecture de l'article, et cette Madame Chavel nous disait, finalement, face à des gens qui disent des choses méchantes ou qui paraissent méchantes, elle nous dit que tout ce que nous pouvons faire, au fond, c'est de prendre l'information qu'on nous donne sans chercher d'arrière-pensée. Parce que c'est vrai que parfois, on peut se tromper, on peut penser que telle personne nous dit un commentaire méchant de façon intentionnelle, puis c'est peut-être pas ça que la personne voulait dire.
Peut-être qu'on l'a mal perçu. Ouais. Dans certains cas, c'est des malentendus.
Ça
des
peut arriver, comme ça. Ça arrive des choses comme ça.
Comme tu donnais l'exemple tantôt, il y avait deux personnes qui, une disait, ben moi, ça me dérange pas trop, puis l'autre, ça a dérangé. Là. C'est ça, ça peut arriver.
Oui. Alors, Mme Chavel nous dit, en revanche, libre à nous de décider que fréquenter cette personne ne nous réussit pas et de l'écarter de notre vie. Ce qui est bien vrai, au fond.
Et c'est correct. Si la méchanceté nous affecte, ben on peut juste... on le ressent comme ça, donc on n'est pas obligé de fréquenter cette personne-là.
Exactement. On change de compagnie.
On change de personne. Oui. Je pense à un autre appel, comme on dit.
Alors, Mme Chavel nous dit, ça s'appelle « poser ses limites ». Et c'est cool. Par contre, ça marche dans les deux sens. Aidons les autres à nous comprendre en exprimant nos émotions et en nous excusant quand on en ressent le besoin. Puis c'est vrai, dans le fond, c'est peut-être la bonne chose à dire, c'est de le dire.
Oui. Mais des fois, c'est ça, nous-mêmes, on a peut-être eu des discours méchants sans trop le vouloir.
Ouais. Des fois aussi, on veut faire une blague aussi.
Oui, puis c'est mal perçu, effectivement. Ouais.
Madame Chavel nous dit, « J'ai la chance assez extraordinaire d'avoir un métier qui me permet d'entrer dans la tête des gens métaphoriquement parlant, bien sûr, je n'ai pas encore de canal magique. On me demande souvent si j'ai des clients que je n'apprécie pas. La réponse est non. La mise à nu émotionnelle est à la base de la thérapie. Et j'ai le grand honneur de pouvoir partager les pensées et les états d'âme les plus intimes de mes clients. Or, il me semble impossible de juger ou de ne pas apprécier une personne qui vous partage tout ce qu'elle est dans toute sa vulnérabilité et dans toute son humanité. Vous verrez peut-être votre collègue Gustave, par exemple, cracher dans votre café. Moi, je le verrai en larmes, me racontant son acte, en thérapie, bien sûr, plein de honte, m'expliquant pourquoi il est jaloux de vous et le dégoût qu'il ressent pour lui-même lorsqu'il se comporte ainsi, se débattant pour sortir de ses schémas destructeurs. Même Disney, en choisissant d'offrir deux films au personnage maléfique, je ne connais pas ce personnage-là, peut-être que ça s'adresse aux plus jeunes, mais en faisant ces deux films, Disney nous invite à relativiser le comportement des vilains.
Non, mais dans les épisodes de Disney, il y avait toujours comme un méchant, c'est peut-être ça que je veux dire. En fait, il y a toujours le côté un peu méchant de quelqu'un pour faire ressortir le meilleur des autres.
Oui, mais ce que je vois devant moi, c'est que Maléfique, ici, porte une majuscule, donc c'est ce serait un personnage qui s'appelle...
Ça m'échappe aussi.
Oui. Et Mme Chavel nous dit, et puis si certains cherchent à rabaisser les autres parce qu'ils ou elles se sentent mal, d'autres ne font que réagir à une action de votre part qui les a blessés. Vous avez le droit de ne pas aimer Geneviève, par exemple. Aviez-vous besoin d'en parler à tout l'étage, histoire de vous assurer que tout le monde est d'accord avec vous et qu'elle se retrouve isolée?
Ouais.
Ça, c'est un peu, je dirais, mesquin, peut-être pas méchant.
Mais quand les gens sont blessés, c'est sûr qu'ils veulent en parler, ils veulent le sortir d'eux-mêmes, puis ils veulent... Mais en même temps, c'est un peu humain, mais... Ouais. C'est pas la meilleure chose à faire.
C'est une mesquinerie chaude. Ouais. De toute façon, Mme Chavel nous dit, juger l'autre et l'enfermer dans le rôle que vous avez décidé pour lui ou pour elle peut donc aussi être une façon d'éviter toute remise en question. On n'a pas envie que Gustave nous explique qu'il crache dans notre café parce qu'il sait que c'est nous qui avons crevé ses pneus, par exemple. Un peu.
Ça va bien,
ça. Ça va mal à
ça. Ça escalade pas mal, là, la violence.
Alors, un peu, alors que vous étiez un peu éméché à la soirée de fin d'année. Ouais. Ni que Geneviève ne nous explique qu'elle vit très mal nos blagues à son sujet.
Ouais.
Est-ce que faire un pas vers l'autre, l'interroger ou chercher à le ou à la comprendre ne serait pas aussi une occasion pour nous d'avancer et de devenir meilleurs?
Ils vont quand même fort, là, crever les pneus, il faut quand même être...
Ouais, c'est
loin d'être drôle.
C'est pas joli.
Non.
Alors, en conclusion, Mme Chabelle nous dit, encore une fois, je ne dis en aucun cas qu'il faut tout accepter et tout craindre, et tout croire, pardon. Je vous encourage simplement à poser vos limites en vous basant sur vous et vos ressentis plutôt qu'en portant un jugement sur celles et ceux qui vous entourent. La phrase « fréquenter cette personne me fait me sentir triste trop souvent à mon goût » n'a pas le même impact que la phrase « cette personne est une horrible connasse, je la hais, elle est tellement méchante ». Alors, ça conclut l'article. Mais moi, j'ai envie de te dire que, pour ma part, moi, j'ai l'impression qu'il y en a des gens méchants qui disent des méchancetés.
Foncièrement, ils veulent chercher le trouble, ils veulent gratter le bobo.
Il y a peut-être de la jalousie en arrière de ça. Je sais pas d'où est-ce que ça vient, mais...
Et en même temps, on peut pas s'adonner avec tout le monde. Il y a des gens qui, peut-être pour nous, sont comme on disait tantôt, il y a des gens qui sont méchants peut-être pour certains, puis d'autres vont dire « Non, moi, je voyais pas de méchanceté là-dedans. » Ça dépend toujours de la sensibilité, mais je pense qu'effectivement, il y a des gens plus malins, ou en tout cas qui ont plus une drôle d'idée derrière la tête, là, souvent.
Et pour revenir à notre ami Hitler, là, ben lui, il était méchant.
Ouais. Merci Pierre pour cette chronique. La méchanceté existe-t-elle vraiment?
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin. Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y'a des gens qui saoulent et des gens soulageants. Des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y'a des gens changeants et y'a des gens stables. Des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest. Des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça. Et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca.
Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, Pierre, comme à notre habitude, on a présenté des chansons cette semaine. C'est toujours bien dans notre émission, dans le format d'émission. La première qu'on a écoutée en début d'émission, Tu peux compter sur moi.
Oui, du groupe Les Éléments.
Et c'est pas moi qui parle Joual, c'est marqué comme ça.
Ah, OK.
M-O, accent aigu, moi. On a écouté Je te pardonne.
De Hoshi.
Dans la deuxième demi, la pure pureté du beurre, pure 100% pur beurre.
Du groupe Blue Jeans Bleu.
Ça doit être du bon beurre, finalement. Mm-hmm,
j'espère.
J'espère qu'il est pur. Et à l'instant, les gens.
De Christophe May.
Merci beaucoup pour ce choix musical ainsi que ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Et également, merci pour tes blocs espresso et espresso allongé où tu nous as parlé de la méchanceté existe-t-elle vraiment? Mm-hmm. Nos invités en début d'émission, Myriam Lepage-Lamazie et Yam Morin, étaient avec nous et nous ont présenté le mouvement Jeunes et Santé mentale. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Elle nous a présenté l'angoisse du dimanche soir. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.